Bien. Eh bien, le Collège de France accueille tous les jours, peut-on dire, ou presque, de très nombreuses conférences. Toutes sont naturellement d'un intérêt extrême, comme chacun peut le penser. Mais la série de quatre conférences qui s'ouvre aujourd'hui et que les quatre conférences que va tenir le professeur Takeshi Matsumura, cette série revêt une importance particulière. Parce que ces quatre conférences sur la lexicographie du français médiéval, sujet particulier, dira-t-on, sujet austère, se donnent à l'occasion d'un événement qui est réellement un événement et qui est la publication aux éditions Les Belles Lettres du dictionnaire du français médiéval que voici et dont M. Matsumura est l'auteur et l'unique auteur. C'est un dictionnaire, vous voyez, non seulement c'est un très beau volume, mais c'est un très gros volume. C'est un volume, je ne sais plus exactement, mais de près de 4000 pages. C'est un dictionnaire qui compte pas loin, combien, 56 000 entrées, quelque chose comme ça, oui. Bon. Et que M. Matsumura a fait tout seul, dans un temps record pour un tel ouvrage, puisqu'il y a travaillé effectivement pendant environ 5 ans, quelque chose comme cela. Il existe déjà, comme chacun sait, des dictionnaires du français médiéval. Mais les uns, d'ailleurs, commencent à dater, les uns sont de très gros dictionnaires en 10 volumes ou davantage, comme le Godefroy ou le Tobler-Lomatch. Le Godefroy est très ancien, le Tobler-Lomatch a mis 100 ans à s'achever, de sorte que le début est ancien aussi. Le Tobler-Lomatch, en plus, est un dictionnaire ancien français-allemand, comme le grand dictionnaire étymologique, le FEV. Il existe un dictionnaire de l'anglo-normand depuis une petite trentaine d'années, Anglo-Norman Dictionary, en 6 fascicules, qui est maintenant en ligne, mais c'est un dictionnaire de ce dialecte, certes littérairement essentiel, mais particulier à tous égards, qu'est le français parlé en Angleterre au Moyen-Âge. Et puis il existe de petits dictionnaires ou de petits lexiques en un volume qu'on peut avoir plus facilement chez soi, mais qui ne sont pas des ouvrages scientifiques et qui souvent ne sont même pas vraiment fiables. Et le dictionnaire qui paraît aujourd'hui est le seul dictionnaire d'ancien français en un seul volume qui soit en même temps d'ancien français et du moyen français qui soit en même temps un dictionnaire scientifique, sérieux, œuvre d'un des meilleurs lexicographes dans ce domaine qui existe actuellement. Et cet auteur et ce meilleur lexicographe est un savant japonais, ce qui est aussi quelque chose que le meilleur dictionnaire du français médiéval paru en France, etc., soit l'œuvre de M. Matsumura. Il a paru grâce à des aides diverses, aides du CNL, bien sûr, celles du Collège de France, celles de ma propre petite fondation liée à mon prix Balzan, et il a paru grâce aux efforts des éditions Les Belles Lettres, qui, depuis toujours, mais particulièrement depuis quelques années, mettent une énergie, n'est-ce pas, et un goût pour nos études à les défendre et à publier nos travaux dans une période difficile à laquelle il convient de rendre hommage. Alors, je ne courais pas grand risque en demandant à M. Matsumura de faire ce dictionnaire. je courais un risque parce que c'était une tâche tellement énorme hein, que j'avais beau avoir confiance en lui, je me posais tout de même des questions. Voilà. Mais je ne courais pas grand risque parce que je connais Takeshi Matsumura depuis très longtemps, depuis depuis le début des années 1980. Il était tout petit, il était jeune quoi, pour la taille. Et il était mon étudiant à Toulouse. À l'époque, moi qui suis un incurable littéraire, je l'entraînais sur les voies de la poésie, où d'ailleurs, il fait tout bien, donc tout se passait admirablement avec une finesse et une subtilité incroyables, mais je trouvais tout de même que c'était bien léger. Et il s'est tourné vers la philologie dure, et particulièrement vers la lexicographie. Une fois rentré au Japon, il fait une brillante carrière à l'Université nationale de Wex, l'Université nationale de Tokyo. Et il publie, en particulier dans la revue de linguistique romane, des travaux de lexicographie terrorisants de science. De même qu'il a ses travaux personnels, son édition de la version d'Alexandrin de Jourdain de Blas et ses autres travaux sont toujours irréprochables. Mais en même temps, et c'est ce qui fait le charme de notre correspondance par email, depuis quelque temps, il se lâche un peu et il publie des articles de lexicographie à partir d'écrivains modernes ou contemporains. Hein, et c'est toujours extrêmement savant, extrêmement, quelquefois inattendu, n'est-ce pas, et c'est l'occasion d'échanges bien agréables. Mais enfin, aujourd'hui, il commence à nous présenter son dictionnaire, donc regard sur la lexicographie du français médiéval à l'occasion d'un nouveau dictionnaire. Et la première de ces conférences est intitulée « Comment lire les dictionnaires du français médiéval ». Donc il y aura 4 conférences, « Comment lire les dictionnaires du français médiéval sur le caractère régional du vocabulaire en cherchant des attestations charnières et pour sortir des sentiers battus ». Et comme ces 4 conférences s'enchaînent, M. Matsumura souhaite que la discussion ait lieu à la fin des 4 conférences. Et donc, il n'y aura pas de discussion aujourd'hui. Et au bout des 4 semaines, à ce moment-là, nous ferons le point sur ce qu'il nous aura apporté et qui, j'en suis sûr, sera particulièrement important. Et maintenant, je lui cède la parole.
Merci beaucoup. Et merci de cette présentation élogieuse du dictionnaire du français médiéval qui est paru donc au mois de novembre dernier. Pourtant, je vous préviens tout de suite que je ne prétends pas que mon ouvrage soit parfait et que ce soit le seul instrument imaginable. Parmi les auditeurs, il doit y avoir plusieurs personnes très compétentes qui pensent que mon dictionnaire est mauvais et qu'il pourrait en faire un qui soit plus satisfaisant. Rien ne vous empêche d'entreprendre un travail lexicographique. S'il paraissait plusieurs dictionnaires du français médiéval en un volume, cela rendrait un grand service au lecteur. Car au Japon, par exemple, dans n'importe quelle librairie, on trouve au moins une trentaine de dictionnaires en un volume du japonais ancien, destinés aux collégiens comme aux lycéens, aux étudiants comme aux spécialistes. Le français médiéval mériterait de recevoir une attention semblable de la part des lexicographes. Pour revenir à mon dictionnaire, c'est la maison d'édition Les Belles Lettres qui l'ont publié. Et comme on peut le constater sur sa couverture, il a été publié sous la direction de M. le professeur Michel Zank. C'est un livre de 3500 pages qui a plus de 55 000 entrées. Mais il faut avouer qu'il n'était pas très facile à réaliser. Avant de parler de ce dictionnaire qui a vu le jour l'année dernière, il faut se rappeler que, curieusement, on manquait toujours d'un bon dictionnaire du français médiéval en un volume. Certes, nous avons de grands dictionnaires, comme il a été dit tout à l'heure, comme celui de Godefroy en 10 volumes, ou celui de Tobler-Lomatch en 11 volumes. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais pour un dictionnaire portatif, il n'y en a aucun, car le dictionnaire de l'ancien français et le dictionnaire du moyen français de Grémas ont été critiqués dès leur parution, notamment par le savant allemand Frank Walter Mehren dont je parlerai dans un instant. Il en va de même pour l'Old French English Dictionary, paru en 2000 au Cambridge University Press. Quant au petit dictionnaire de l'ancien français de Fandal, paru chez Garnier, il est épuisé depuis longtemps. Pourtant, cela ne veut pas dire que personne n'a ressenti le besoin d'avoir un dictionnaire portatif du français médiéval. Dès le début des études romanes en France, Paul Meyer a voulu fabriquer un dictionnaire en un volume, mais son ami Gaston Paris lui a opposé un refus catégorique. Plus près de nous, M. Pierre-Yves Badel aussi a souhaité faire un dictionnaire qui puisse rendre service aux étudiants. Mais Félix Lecoy n'était pas de son avis. Aux yeux de ces grands romanistes qui se sont opposés à ces initiatives, un petit recueil lexicographique n'était pas un travail digne des spécialistes. Au lieu de mettre à la portée du grand public et des étudiants les acquis des études médiévales, les spécialistes devaient s'occuper de choses plus sérieuses. La situation a changé il y a une vingtaine d'années. À ce moment-là, M. Michel Zanck a jugé qu'il était temps de faire réaliser un dictionnaire du français médiéval en un volume. Il a persuadé une maison d'édition de la nécessité de cette publication. Et il a demandé à un lexicographe français de réaliser ce projet. Son choix était excellent, parce que ce savant était un grand spécialiste du français médiéval, qui de plus était un bon travailleur. Avec lui, il semblait être aisé de mener à bien le projet. En effet, à l'occasion de colloques ou de volumes de mélange, il a publié des articles modèles qu'il était en train de rédiger. Ces échantillons étaient conçus avec rigueur et donnaient une très bonne image du dictionnaire qui devait paraître. Mais malheureusement, 10 ans se sont écoulés sans que l'auteur ait envoyé aucun article à l'éditeur. La maison d'édition a donc décidé de rompre le contrat et a demandé à M. Michel Zanck de trouver quelqu'un d'autre pour mener à bien cette entreprise. C'est à ce moment-là, c'est-à-dire au mois de novembre 2007, que M. Michel Zanck m'a proposé de faire un dictionnaire. Il m'a précisé que je devais lui remettre mon manuscrit en 4 ans. Ce n'était pas sans hésitation que j'ai accepté cette proposition, car d'après un petit essai, je prévoyais qu'il me faudrait non pas 4 ans, mais 7 ans pour terminer l'ouvrage. Vous me demanderez sans doute pourquoi alors j'ai consenti à cette condition qui me paraissait impossible à remplir. La principale raison est que j'étais convaincu qu'on manquait toujours d'un dictionnaire portatif du français médiéval qui tienne compte des études lexicographiques spécialisées. Et je n'étais pas le seul à penser de cette façon. Lorsque j'avais publié en 1996 un compte-rendu de la thèse de M. Gabriel Bianciotto sur le roman de Troïde, il m'avait dit qu'il avait eu beaucoup de difficultés à établir son glossaire et à examiner le caractère régional du vocabulaire, parce que les études sur les régionalismes médiévaux étaient si dispersées qu'il lui était impossible de se tenir au courant de ce qui s'écrivait. Il avait souhaité vivement disposer d'un manuel qui nous apprennent ce que les études pointues avaient découvert dans différentes publications. La proposition de M. Michel Zanck, qui m'est venue 10 ans après le souhait, émis par M. Gabriel Bianciotto, m'a donc paru une bonne occasion à saisir pour mettre à la portée des lecteurs ce que les spécialistes avaient accumulé depuis longtemps. Peut-être c'était un coup de folie d'avoir voulu réaliser tout seul un ouvrage de cette ampleur. Un collègue allemand, Thomas Stettler, m'a dit que j'étais fou d'avoir accepté cette proposition. Il avait sans doute raison, mais j'étais déjà assez fou quand j'avais choisi le français médiéval comme sujet d'étude. En tout cas, j'ai commencé à travailler à la fin 2007, et au bout de 5 ans et demi, au mois de mai 2013, j'ai terminé l'ensemble et je l'ai envoyé à la maison d'édition et à M. Michel Zanck, tout ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car un rebondissement inattendu a eu lieu. Comme mon manuscrit contenait plus de 10 millions de signes, la maison d'édition l'a jugé impossible à publier. Le malheur était que le contrat ne disait rien sur l'aspect quantitatif de l'ouvrage. Ainsi, le travail que j'ai fait laborieusement a abouti à un résultat monstrueux que l'éditeur commercial a refusé de recevoir. Après des négociations infructueuses, M. Michel Zinck et son ami M. Dominique Gou ont cherché un nouvel éditeur et grâce à leurs efforts efficaces, ils ont trouvé un accueil bienveillant aux belles lettres chez Mme Caroline Noirot. Après, l'ouvrage a été composé par M. Yanis Aralambou et révisé par M. Robert Martin. Et 2 ans et demi après la remise du manuscrit, les belles lettres l'ont publié en novembre 2015. C'est pour cette raison que je suis donc ici pour vous raconter ce qui se fait un peu dans la lexicographie du français médiéval. J'ai mis donc 5 ans et demi pour rédiger l'ensemble des articles du dictionnaire du français médiéval. Vous vous demanderez sans doute pourquoi il m'a fallu tellement de temps pour les écrire. Bien sûr, s'il avait suffi de recopier, bien, en abrégeant un dictionnaire existant, le travail aurait été terminé plus rapidement. Mais pour cela, il aurait fallu disposer d'un dictionnaire impeccable qu'on pourrait suivre aveuglément. Malheureusement, jusqu'à maintenant, le français médiéval n'a pas encore eu cet instrument de travail complet. Plus précisément, le seul dictionnaire auquel on puisse avoir confiance est encore en cours de publication. Cet instrument presque idéal s'appelle le dictionnaire étymologique de l'ancien français. C'est un produit allemand qui est fait à Heidelberg. Il a été conçu par Kurt Waldinger dans les années 1960 et ensuite poursuivi par Frank Walt Meyrin et aujourd'hui par Thomas Stettler avec leurs collaborateurs. Leur objectif est de réunir toutes les informations accumulées dans la lexicographie historique, mais pour cela, les rédacteurs s'imposent une tâche ardue qui consiste à examiner toutes les affirmations des prédécesseurs. Ils se demandent ainsi si le mot existe bien ou non, si le sens et l'étymologie proposés conviennent ou non, si les passages cités sont bons ou fautifs, etc. Le premier principe de ce dictionnaire est donc de douter de tout et de ne se fier à personne. Le résultat est naturellement admirable. Comme le disait Frank Walt Meyrin, une fois terminé, ce dictionnaire pourrait être condensé en un volume et l'on aurait enfin un excellent dictionnaire portatif du français médiéval. Le seul problème que pose le dictionnaire étymologique de l'ancien français est qu'il est loin d'être achevé. Sa publication a commencé en 1971, non pas par la lettre A, comme on pourrait s'y attendre, mais par la lettre G. Et l'équipe a mis 25 ans pour terminer la seule lettre G. Comme vous pouvez l'imaginer facilement, si l'on continuait à ce rythme-là, l'ensemble des lettres de l'alphabet ne serait pas couvert avant 5 ou 6 siècles. Les lecteurs qui s'intéresseront au français médiéval dans 500 ans ou 600 ans comprendront-ils les définitions et les commentaires qui sont écrits en français d'aujourd'hui? N'auront-ils pas besoin d'un dictionnaire du français du 20e ou du 21e siècle pour saisir toutes les subtilités qu'il contient? L'Académie de Heidelberg, qui finance l'entreprise, s'est sans doute rendu compte des difficultés qui attendent les lecteurs à venir. Car il y a quelques années, il a demandé à l'équipe de finir en 10 ans le dictionnaire étymologique de l'ancien français. C'est une décision étonnante parce que jusque-là, on n'avait que les lettres G, H, I, J et K. À cause de ce changement drastique, les fascicules de la lettre F qui l'ont suivi ne traitent que des mots plutôt rares qui n'ont pas besoin d'une recherche approfondie. Les mots qui ont beaucoup de dérivés ou qui sont difficiles à examiner ont été laissés de côté. Pour ces mots-là, le site Internet ne fournit au fur et à mesure la documentation dont dispose l'équipe. Mais les lecteurs ne peuvent pas y trouver les articles de dictionnaire. C'est plutôt une masse de fiches qu'il faut que chacun examine soi-même pour savoir ce qu'elles donnent. Malheureusement, il n'est pas très facile de maîtriser cette quantité extraordinaire d'informations brutes. Si l'Académie de Heidelberg ne revenait pas sur sa décision, le reste des lettres de l'alphabet serait ainsi très maltraité dans cette entreprise. La lenteur de la publication du dictionnaire étymologique de l'ancien français a eu une autre conséquence. Comme il a été publié sous forme de fascicules à intervalles irréguliers, les bibliothécaires qui voulaient faire relier les fascicules en volume n'ont pas pu les communiquer tout de suite aux lecteurs. Cela est arrivé, par exemple, dans la bibliothèque de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Cette bibliothèque est très bien faite parce que tous les livres sont en rayon et que les lecteurs peuvent les lire en se promenant dans les salles. Seulement, les revues et les fascicules qui ne sont pas encore reliés restent dans le bureau des bibliothécaires. Ainsi, la lettre G du dictionnaire étymologique de l'ancien français a attendu 25 ans pour être mise à la portée des lecteurs. Seuls les élèves maniaques qui voulaient absolument consulter les fascicules ont fait une demande intempestive aux bibliothécaires pour qu'ils leur permettent de les feuilleter. Le résultat est que ce dictionnaire est resté peu connu des normaliens. Et ce n'était pas un cas exceptionnel. La diffusion trop restreinte de ce dictionnaire est naturellement regrettable. Même s'il ne couvre qu'une toute petite portion des lettres de l'alphabet, la partie publiée de ce produit de Heidelberg nous offre un modèle de lexicographie critique. J'en ai profité dans mon livre et j'y ai renvoyé dans un certain nombre de mes articles pour rappeler aux lecteurs qu'il existe un bon ouvrage qui s'appelle « Le dictionnaire étymologique de l'ancien français » et qui mérite d'être consulté. Pour la partie qui n'est pas traitée dans cet instrument de travail, qu'est-ce qu'il m'a fallu faire? En fait, c'est cette partie qui m'a demandé beaucoup de temps et d'efforts. Je ne suis pas naturellement parti de zéro. Il y a plusieurs dictionnaires vénérables qu'on peut utiliser avec profit si on les utilise avec un peu d'esprit critique. Ma façon de travailler n'a du reste rien de révolutionnaire. Par exemple, dans l'introduction de leur dictionnaire étymologique et historique de la langue française, Emmanuel Baumgartner et M. Philippe Ménard avaient bien montré quelles étaient les grandes lignes à suivre quand on voulait travailler sur le français historiquement. Je n'ai fait que me conformer dans la mesure du possible à la méthode qu'ils ont préconisée. Les principaux dictionnaires achevés qu'on doit toujours consulter pour comprendre le français médiéval sont au nombre de trois. D'abord, le dictionnaire de l'ancienne langue française de Frédéric Godefroy. Ensuite, l'Altfranzösisches Wörterbuch de Tobler-Lomatsch. Et enfin, le Französisches Etymologisches Wörterbuch de Walter von Wartburg. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, aucun de ces dictionnaires n'est parfait. Je vais vous expliquer sommairement pourquoi il faut être attentif quand on utilise ces instruments de travail. Commençons par le dictionnaire de Frédéric Godefroy. Ce monument que l'auteur a préparé presque tout seul et qu'il a publié en 10 volumes de 1880 à 1902 est toujours digne d'être consulté. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de qualités qu'on ne trouve pas ailleurs. Ce qui nous étonne toujours, c'est qu'il a puisé dans des sources extrêmement variées. Comme on peut s'y attendre, il a cité naturellement de nombreux textes littéraires. On trouve donc chez lui des chefs-d'œuvre de la littérature française du Moyen-Âge, comme La vie de Saint-Alexis, La chanson de Roland, le roman de Troyes de Bonnat de Sainte-Maure, les romans de Chrétien Troyes, le roman de La Rose, etc. Mais quand on œuvre n'importe quelle page de Godefroy, on s'aperçoit tout de suite que ces grands noms qui viennent à l'esprit des lecteurs d'aujourd'hui sont noyés dans une masse considérable de textes dont le titre ne leur est pas toujours familier. On dirait que l'auteur a pris du plaisir à utiliser des sources moins connues que les œuvres trop célèbres. Les lecteurs qui parcourent son ouvrage avec une connaissance superficielle de l'histoire littéraire seront déconcertés en y trouvant un nombre considérable de textes dont ils n'ont pas entendu parler. Ainsi, prenons comme exemple Benoît de Sainte-Maure. Pour les lecteurs moyens d'aujourd'hui, parmi ses productions, c'est le roman de Troyes qui est le plus célèbre. Mais ce n'est pas ce texte que Godefroy cite avec prédilection. C'est plutôt un texte aujourd'hui moins connu qui s'appelle « La chronique des ducs de Normandie ». Vous direz sans doute que ce choix du lexicographe provient du fait qu'il disposait ou non d'une édition moderne. En effet, pour le roman de Troyes, Il n'avait qu'une édition publiée par Aristide Joly en 1871 et que l'édition qui fait aujourd'hui autorité, celle publiée par Léopold Constance, n'a vu le jour qu'entre 1904 et 1902, c'est-à-dire après l'achèvement du dictionnaire de Godefroy. Par contre, Francisque Michel avait imprimé la chronique des ducs de Normandie dès 1836-1844. Mais cela ne me semble pas expliquer tout, car même s'il dispose d'une édition moderne, parfois il ne l'utilise pas volontiers. C'est le cas du roman de Brut de Vaz. Parmi les différentes versions de Brut, celle que Vaz a composée vers 1155 est la plus connue. Aujourd'hui, quand on parle du roman de Brut, on y pense tout de suite. Et cette version a été publiée dès les années 30 du 19e siècle par Leroux de Lancy. Mais Godefroy utilise plus volontiers une autre version de Brut, qu'on appelle le Brut de Munich, car elle est transmise dans un manuscrit conservé à Munich. Cette version, qui date d'environ 200, a été publiée en 1877. Et c'est cette publication qui a plu au lexicographe. Malheureusement, parmi les lecteurs de Godefroy, ceux qui étaient pressés ou inattentifs ont confondu ce Brut de Munich avec le roman de Brut de Vaz et lui attribué à tort la date précoce de 1155. Cette présentation sommaire ne doit pas laisser imaginer que Godefroy s'est contenté d'utiliser les éditions modernes. Tous les lecteurs sont frappés par le fait que son dictionnaire cite un grand nombre de sources manuscrites. Par exemple, Gautier de Coincy, qui a écrit les Miracles de Notre-Dame dans les années 20 du XIIIe siècle, a fait dès 1857 l'objet d'une édition par l'abbé Poquet, et Godefroy a utilisé largement cette publication. Mais pour compléter sa documentation, il a eu recours à de nombreux manuscrits qui conservent les œuvres de Gautier de Coincy. Cela a entraîné plusieurs confusions d'identification, mais il faut admettre que grâce à son dépouillement très large, Godefroy a réussi à attirer l'attention des lecteurs sur tel ou tel mot rare que l'auteur ou des copistes des Miracles Notre-Dame ont utilisé avec virtuosité. Dans le cas de Gautier de Coincy, il existait une édition moderne du XIXe siècle. Mais même les œuvres qui n'ont jamais été éditées à son époque ont fait également l'objet d'un dépouillement attentif de Godefroy. Ce faisant, il a élargi considérablement son corpus. Les genres littéraires qui ne sont familiers, comme le roman, la chanson de geste ou la poésie lyrique, ne sont pas les seuls qui ont nourri son dictionnaire. On y trouve aussi de nombreux textes religieux. Par exemple, la traduction française de la Somme des Offices de Jean Belette, qui est transmise par un seul manuscrit du premier tiers du XIIIe siècle, a été bien dépouillée par le lexicographe. Comme c'est un témoin précoce du texte liturgique, il ne manque pas d'attirer l'attention de tous ceux qui sont intéressés par l'histoire du vocabulaire religieux. De même, de nombreux documents historiques ont été utilisés par Godefroy. Un nombre impressionnant de lettres de rémission qui sont conservées dans les archives nationales sont ainsi citées par lui, souvent en partant du dictionnaire de Ducange. Même s'ils sont dans un état imparfait à cause d'une citation tronquée, ces témoignages contiennent souvent un vocabulaire particulier qui est digne d'intéresser les lecteurs. Bref. Godefroy reste toujours un dictionnaire irremplaçable pour ses nombreuses qualités. Cependant, à côté de toutes ces qualités, le dictionnaire de Godefroy a plusieurs défauts qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on le consulte. Tout d'abord, on doit être attentif à sa nomenclature. Tout à l'heure, j'ai rappelé que ce dictionnaire est composé de 10 volumes. En fait, il est divisé en deux parties. Depuis le premier tome jusqu'au milieu du tome 8, c'est la partie principale. Le reste est un complément qui suit l'ordre alphabétique des entrées. Pourquoi l'ouvrage est-il divisé en deux parties? Parce que l'idée initiale de l'auteur était d'enregistrer les mots et les sens qui sont particuliers au français médiéval et de laisser de côté ce qui se trouve dans le dictionnaire de Littré. Il considérait que quand on lisait un texte du Moyen Âge, si l'on avait une connaissance suffisante du français moderne, on pourrait comprendre ce qui lui correspond et que par conséquent, un dictionnaire de français médiéval devait avoir comme objectif d'aider les lecteurs à comprendre les mots et les sens qui n'existaient plus en français moderne. Mais tout en poursuivant sa publication, Godefroy s'est aperçu que cette façon de présenter le vocabulaire du Moyen Âge ne pouvait pas bien le représenter et qu'il fallait enregistrer même les mots et les emplois qui continuaient à exister à l'époque moderne. Le complément qui va du tome 8 au tome 10 est ainsi destiné à donner les informations qu'il avait écartées dans le premier temps. Mais la contrainte éditoriale était très forte et l'auteur lui-même est mort en 1897 avant le dernier volume. Il en résulte que les articles du complément sont souvent très laconiques et qu'ils donnent des citations très courtes. La riche documentation que Godefroy avait accumulée n'a donc pas été utilisé pleinement dans les volumes publiés. L'hésitation qui est assez compréhensible étant présente dans sa rédaction, il y a des mots qui, bien qu'ils existent au Moyen Âge, ne sont pas traités dans le dictionnaire de Godefroy. On peut prendre comme exemple la première lettre de l'alphabet. Si l'on ouvre la première page du tome premier, on voit que le dictionnaire commence par un très long article sur la préposition « a » qui occupe 6 pages en 3 colonnes. La lettre « a » n'y est pas mentionnée. Le début du complément dans le tome 8 est plus sommaire, quand l'auteur se contente de renvoyer au premier article sur la préposition « a » paru dans le tome 1er. Ainsi, le mot « a » en tant que première lettre de l'alphabet n'est enregistré ni dans le tome 1er, ni dans le complément. Les lecteurs du dictionnaire sont alors amenés à imaginer qu'au Moyen Âge, il n'existait pas. Si vous voulez faire un dictionnaire du français médiéval, vous serez tenté de l'omettre comme le fait Grémas. Mais est-ce qu'il faut suivre aveuglément Godefroy? On va trouver la réponse dans un instant quand je parlerai du dictionnaire de Tomblay-Lomagie. À côté de cette nomenclature insuffisante, il y a un autre défaut de Godefroy. C'est sa nomenclature trop abondante. Il a été si généreux pour accueillir des mots rarement attestés qu'il a parfois enregistré ce qu'on appelle des mots fantômes. Prenons comme exemple le substantif Aeron, A-I-R-O-N, qu'il cite avec un seul exemple tiré de Gautier de Coincy. À vrai dire, le lexicographe a été bien embarrassé parce que tout en citant un vers, il sait d'arbalestre et d'héron, il ne donne pas de définition. Quand vous voulez faire un dictionnaire de français médiéval, que ferez-vous de ce cas? Si vous êtes généreux, vous aurez sans doute envie de l'enregistrer, soit en proposant une signification, soit en avouant que le sens vous échappe. Mais quand on fait un dictionnaire, il ne faut jamais se précipiter. Pour expliquer le mot « héron » qui nous occupe, il faut examiner de quel texte provient la citation. D'après Godefroy, le vers qu'il cite se trouve dans les Miracles Notre-Dame de Gautier de Coincy, manuscrit de Soissons, folio 88, première colonne. Ce qu'il appelle le manuscrit de Soissons est aujourd'hui dans la Bibliothèque nationale de France, Nouvelles acquisitions françaises, 24 541. Or, si l'on consulte le manuscrit, on s'aperçoit tout de suite que le vers en question ne se lit pas au folio 88, comme le dit Godefroy, mais au folio 82. Vous me direz sans doute qu'il s'agit d'une coquille bien compréhensible dans un ouvrage si volumineux. Oui, je ne vais pas reprocher à l'auteur une si petite faute. Mais ce qui est un peu plus grave, c'est que la leçon du manuscrit n'est pas Aeron, mais Arson. C'est une sorte d'arme qu'on peut traduire par petit arc, c'est un diminutif de arc. Avec cette leçon, on comprend mieux le vers de Gautier de Coincy, il sait d'arbalestre et d'arçon, c'est-à-dire que ce personnage qui sait beaucoup de choses sait très bien manier les armes, que ce soit une arbalète un petit arc. Alors, d'où vient la leçon errante qui a embarrassé le lexicographe? A-t-il mal lu le manuscrit? Ce n'est pas impossible. Mais il est plus probable qu'il a utilisé non pas le manuscrit de Soissons, mais l'édition procurée par l'abbé Poquet. Car cette édition qui reproduit ce manuscrit a parfois mal transcrit les leçons. Le mot errant est une de ces nombreuses fautes de lecture. Si Godefroy avait vraiment utilisé le manuscrit de Soissons, il aurait pu éviter de tomber dans le piège tendu par l'édition de Poquet. Ce cas nous montre donc que le dictionnaire de Godefroy contient des mots dont l'existence est douteuse. Les lecteurs doivent toujours être vigilants pour ne pas être trompés par sa trop abondante nomenclature. En même temps, le cas que je viens d'évoquer nous apprend que le lexicographe dissimule quelquefois ses vraies sources. Il lui arrive de prétendre se référer à un manuscrit alors qu'il utilise en fait une édition moderne. Quelle que soit la motivation, le résultat est qu'il ne nous est pas toujours facile de retrouver les vraies sources qui lui ont servi. Un autre défaut souvent reproché à Godefroy est son interprétation peu satisfaisante des mots. Dans de nombreux cas, la définition fautive provient de ce qu'il a rattaché le mot à un mauvais étymon. En fait, comme il indique rarement l'étymologie, les lecteurs sont obligés d'imaginer, en partant de l'interprétation et de la graphie, quel étymon le lexicographe avait dans son esprit pour rédiger l'article qu'ils sont en train de lire. Prenons comme exemple l'article AOROUS qu'on lit au tome premier. C'est un adjectif et Godefroy lui donne le sens de vénérable, tout en citant un exemple de la vie des pères. On peut supposer qu'il rattache le mot à l'étymon latin « adorare » qui a donné le verbe « aorer » en ancien français. Cette supposition n'est pas tout à fait gratuite parce que le FEV de Walter von Wartburg, dont je vous parlerai la semaine prochaine, a accueilli dans son article « adorare » du tome 24 cet adjectif « aoreux » en le qualifiant d'un aparte du XIIIe siècle. Mais Godefroy et par la suite Wartburg ont été trompés par la forme de l'unique citation. Certes, on lit dans le vers cité de la vie des pères si amé et si aoreux, mais cette leçon provient d'un manuscrit de l'Arsenal 3641, folio 137. Si l'on consulte l'édition de la vie des pères publiée par Félix Lecoy, le passage correspond se lit au vers 20797, si amé et si heureux. Dans ce vers, il s'agit donc de l'adjectif « heureux », c'est-à-dire « heureux » en français moderne, qui, provenant de l'étymon latin « augurium », signifie « qui bénéficie d'un destin favorable ». Comment expliquer la leçon du manuscrit de l'Arsenal? Tout simplement, c'est une variante graphique, parce que c'est un copiste de l'Est qui a introduit cette forme orientale « aoreux » de l'adjectif « heureux ». Vous pouvez constater avec cet exemple que si on lit trop rapidement un texte, on risque d'être induit en erreur et que chaque fois, il faut procéder à un examen philologique sur les caractéristiques du texte et celles du ou des manuscrits qui le transmettent. Une autre difficulté qui attend les lecteurs de Godefroy, c'est qu'il faut toujours se demander si tel était le sens proposé sous un seul article sont regroupés à juste titre ou non. Comme le lexicographe suggère rarement les étymologies, on est obligé de réfléchir sur la validité de ces classifications. Tel mot qui a des définitions assez éloignées doit-il être traité comme un seul mot, plutôt ne doit pas y voir deux mots différents? Ces questions ne sont pas toujours faciles à résoudre. Prenons comme exemple le verbe « aorner » qui est enregistré dans le tome premier de Godefroy. Les sens proposés sont assez variés. Comme verbe actif, il signifierait disposer, préparer, apprêter, munir, enrichir, orner, parer. Est-ce que toutes ces acceptions pourraient être ramenées à une seule signification fondamentale? Dès 1894, Gaston Paris a indiqué dans une note en bas de page de la revue Romania qu'en ancien français, il y avait deux verbes à orner et que chacun de ces verbes avait une étymologie différente. Il a dit clairement que Godefroy s'était trompé. Le dictionnaire de Tomblay-Lomatch a suivi cette indication de Gaston Paris. Ainsi, il propose de séparer les différentes définitions de Godefroy et d'y voir deux mots différents. D'une part, on a le verbe orner qui provient du latin adordinare et qui signifie disposer, préparer, garnir. De l'autre, on a le verbe orner dont l'étymon est le latin adornare qui signifie parer au sens actif. Comme le disait Gaston Paris, la distinction de ces sens n'est pas toujours aisée et l'on ne pourrait pas reprocher à Godefroy le manque de compétences linguistiques. Un autre défaut du dictionnaire de Godefroy est l'absence d'indications sur la géographie des mots. De temps en temps, il signale que tel ou tel mot est employé aujourd'hui dans telle ou telle région. Mais ce sont des renseignements évasifs et souvent difficiles à contrôler. Il n'est pas très explicite sur la diffusion spatiale des mots au Moyen Âge. Du reste, il n'est pas le seul à négliger cet aspect. Comme on le verra, le dictionnaire de Tomblay-Lomatch n'est pas non plus très explicite sur le problème. Leur négligence a eu une conséquence assez grave. Comme les lecteurs qui consultent l'ouvrage de Godefroy et celui de Tomblay-Lomatch ne peuvent pas y apprendre comment tel ou tel mot était diffusé au Moyen Âge, ils imaginent facilement que tous les mots qu'ils rencontrent dans les textes et les dictionnaires ont une diffusion large et qu'ils ont affaire en quelque sorte à un français médiéval standard. C'est dommage, d'autant plus que dès le début des études romanes, l'aspect géographique du vocabulaire n'a pas échappé à quelques savants. Comme preuve, je peux citer encore Gaston Paris. Dès 1879, c'est-à-dire juste au moment où Godefroy a commencé à publier son dictionnaire, Gaston Paris a consacré une notice au verbe « sensier » au sens de guérir, soulager, et à son composé « essentiel » qui a le même sens. Dans cette notice parue dans la revue Romania, il a proposé non seulement leur étymon « sanitiare », mais aussi leur localisation. D'après lui, ces deux mots sont attestés dans des textes picards. Que deviendra cette information dans les dictionnaires? Certes, Godefroy, l'article est censé au tome 3, dans lequel il enregistre quatre citations qu'il tire de deux chansons de gestes tardives du XIVe siècle. Mais il passe sous silence l'article de Gaston Paris. Il en va de même dans l'article censé qui paraît dans le tome 7. Quant au dictionnaire de Tomblay-Lomatch, il est vrai qu'il renvoie à la notice de Gaston Paris dans l'article essentiel paru dans le volume 3. Mais sans rien préciser sur son contenu, il laisse au lecteur le soin de découvrir ce qui a été dit dans la Romania. L'article essentiel est moins explicite parce qu'il s'abstient carrément d'y renvoyer. Dans ces conditions, il faudrait avoir un esprit assez particulier pour aller retrouver l'article de Gaston Paris et se rendre compte que les verbes sensier et essentiel ont une diffusion géographique restreinte. Tout à l'heure, j'ai parlé du mot arçon au sens de petit arc. Si l'on consulte l'article arçon de Godefroy qui est apparu dans son tome premier, on pourra mettre en évidence un autre défaut de son dictionnaire qui risque d'embarrasser les lecteurs. C'est le problème de l'identification des sources. Parmi les sept citations données par Godefroy pour le sens de diminutif d'arc, il y en a une qu'il attribue à la vie des pères. C'est une seule ligne. Il sait d'arbalète et d'arçon. Selon le lexicographe, le vers cité provient du manuscrit de la Bibliothèque nationale de France, fonds français 23111, folio 65. Si vous voulez faire un dictionnaire, vous serez sans doute tenté de reprendre textuellement cette citation de Godefroy en l'attribuant à la vie des pères. Pourtant, ce cas nous rappelle encore une fois qu'on ne doit jamais se fier aux autres. Car le manuscrit 2311 de la Bibliothèque nationale de France ne contient pas autour du folio 65 la vie des pères, mais un des miracles de Notre-Dame composé par Gautier de Coincy. Si vous vouliez donc reprendre la citation de Godefroy, il faudrait se reporter à l'édition des Miracles de Notre-Dame publiée par Frédéric Koenig. D'ailleurs, le vers en question, c'est-à-dire Yessé d'Arbalète et d'Arçon, était celui qu'on a examiné à propos du mot fantôme Héron. Alors que dans l'article Héron, Godefroy utilisait l'édition fautive de Gautier de Coincy, publiée par l'abbé Poquet, tout en prétendant qu'il consultait le manuscrit de Soissons, dans son article Arçon, il avait recours à un des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, auquel il donne la bonne cote, encore que le titre s'avère fautif. Mais quand on lit rapidement les articles de Godefroy, serait-il possible de vérifier les références de chaque citation? Il serait sinon impossible, du moins assez difficile, surtout pour ceux qui ne sont pas patients. Je reviendrai la semaine prochaine sur une citation de l'article Arçon qui a été mal comprise par un lexicographe postérieur. Bref, dans cette citation du substantif Arçon, Godefroy a utilisé un des témoins manuscrits de Gautier de Coincy. Bien qu'il attribue à la vie des pères, ce manuscrit date de la fin du XIIIe siècle, et ce n'était pas un trop mauvais choix. Mais il faut savoir ou se souvenir que son choix des sources n'était pas toujours heureux. Le cas de Guillaume de Digueville est assez bien connu, mais il méritera d'être rappelé pour qu'on évite de fausses datations. Comme on sait, cet auteur normand a composé dans le deuxième tiers du XIVe siècle trois pèlerinages, à savoir le pèlerinage de vie humaine, le pèlerinage de l'âme et le pèlerinage de Jésus-Christ. De plus, le premier pèlerinage a eu une deuxième version. Ses œuvres ont été publiées par Stötzinger à la fin du XIXe siècle, tandis que la deuxième version de pèlerinage de vie humaine n'a été publiée que l'an dernier par Messieurs Philippe Maupeu et Graham Robert Edwards. Ainsi, Godefroy n'a pas pu utiliser ces éditions modernes dans son dictionnaire. Mais il savait bien que Guillaume de Digueville avait un vocabulaire très riche. Pour le citer, il a utilisé principalement un imprimé qui est apparu peu après 1500 et qui est conservé dans la bibliothèque Mazarine. Cette version tardive est pratique parce qu'elle contient tous les trois pèlerinages. Ainsi, Godefroy en a tiré 550 citations. Mais elle a l'inconvénient, d'une part, de suivre la deuxième version de pèlerinage de vie humaine et d'autre part, d'avoir modernisé la langue de son modèle. Le texte qu'elle nous transmet suit tantôt la version du XIVe siècle, tantôt un remaniement qu'on ne trouve pas dans la version initiale. Les lecteurs doivent être toujours très attentifs et se demander si tel ou tel passage qu'ils lisent remonte à un Guillaume de Digueville ou si c'est le résultat d'une intervention du remanieur. Godefroy, qui a dépouillé avec prédilection cet imprimé tardif, a donc tendu le piège aux lexicographes qui l'ont suivi. Comme on peut le constater, le dictionnaire de Godefroy est très riche. Sa documentation est étonnamment variée. S'il a parfois mal attribué des passages qu'il cite, ou s'il a quelquefois utilisé des sources un peu malheureuses, cela ne doit pas nous empêcher de lire son ouvrage avec intérêt et profit. Parmi les textes peu connus qu'il a utilisés, il en reste encore qui attendent une édition critique, un examen lexicographique approfondi. On verra dans la quatrième séance combien les pistes qu'il suggère sont fructueuses. Passons maintenant à un rapide survol du dictionnaire publié entre 1915 et 2002 par Toblet et Lomach. Dès le départ, il est conçu comme un ouvrage qui soit le répertoire le plus complet possible du vocabulaire littéraire de l'ancien français jusqu'au milieu du XIVe siècle. Il ne se limite donc pas aux mots et aux sens qui ont existé en ancien français et qui ont disparu ensuite. Il accueille même les mots et les sens qu'on a toujours en français moderne. C'est une des qualités qui distingue le dictionnaire de Tombouret-Lomatch et celui de Godefroy. Pour dire un peu plus précisément, cela est vrai en général, mais il y a des cas où c'est Godefroy qui l'emporte sur Tombouret-Lomatch, comme nous le verrons la semaine prochaine. Mais enfin, d'habitude, la nomenclature de Tombouret-Lomatch est mieux réfléchie que celle de Godefroy. Pour s'en convaincre, il suffit d'ouvrir la première page de leur dictionnaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Godefroy commençait son ouvrage par l'article sur la préposition « à » et il passait sous silence la première lettre de l'alphabet. Par contre, le dictionnaire de Tombouret-Lomatch s'ouvre avec l'article sur la première lettre de l'alphabet, dans lequel on trouve au total 8 citations. Parmi ces 8 citations, les 5 premières sont classées dans l'alinéa consacré au sens propre, tandis que les 3 citations qui restent sont rangées sous le sens figuré, c'est-à-dire par la locution verbale « ne savoir, ne A, ne B », qui signifie « être totalement ignorant ». Pour le sens propre, la source des citations est la suivante. Les 2 premières sont tirées des « Miracles Notre-Dame de Gautier de Coincy », d'une part d'après l'édition de Barbazan et Méon, et de l'autre d'après l'édition de l'abbé Pouquet. La 3e vient du Couronnement de Renard, édité par Méon. La 4e est prise de l'ABC de Lyon, le roi de Cambrai, que Juvénal a publié dans son nouveau recueil de contes d'I.F. Abliot. Et la 5e est due à Baudouin de Condé, d'après l'édition procurée par Scheller. Pour le sens figuré, la première citation vient encore des Miracles Notre-Dame de Gautier de Coincy, d'après l'édition de Barbazan et Méon, tandis que la 2e citation, elle aussi de Gautier de Coincy, est tirée de l'édition de Hurlich, parue dans la Zeitschrift für Romanische Philologie de 1882. Quant à la 3e et dernière occurrence, elle provient du roman de Carité de Ranclus de Moalien, d'après l'édition de Van Hamel. Comme les 3 dernières occurrences du sens propre sont datées du 3e quart du 13e siècle ou de la fin du 13e siècle, son premier témoin est Gautier de Coincy, car la date de rédaction de ces miracles Notre-Dame se situe entre 1224 et 27. Je reviendrai dans la 3e séance à cette première lettre de l'alphabet pour vous dire que le mot est attesté un peu avant dans un texte qui n'est pas cité par Tombouret-Lomatch. Vous avez sans doute constaté que dans ce premier article, Tombouret-Lomatch cite 4 fois Gautier de Coincy, mais que leurs citations proviennent de 3 éditions différentes. 2 fois d'après celle de Barbazan et Méon, 1 fois d'après l'abbé Pouquet, 1 fois d'après Hurli. Pourquoi un auteur est-il ainsi cité d'après diverses publications? Les lecteurs ne seraient-ils pas embarrassés par ces références compliquées? Cette question nous conduit à une deuxième caractéristique de Tombouret-Lomatch. C'est qu'ils ont pour principe de suivre les éditions modernes et non pas les sources manuscrites comme le faisait Godefroy. Mais si Tombouret-Lomatch ont privilégié les éditions modernes, cela ne veut pas dire pourtant qu'ils les ont suivis sans contrôle. Leur souci philologique se montre, par exemple, dans leur traitement de Philippe Mousquet. Le vocabulaire de ce chroniqueur est très intéressant, mais l'édition de la chronique rimée que Reifenberg a publiée en 1836-38 n'était pas très satisfaisante. L'éditeur n'a pas toujours compris ce texte difficile et il lui arrive de mal transcrire le manuscrit. Sans doute conscient des défauts de cette édition belge, Tombouret a lui-même publié en 1882 des extraits de l'œuvre de Philippe Mousquet. Ce travail lui a permis de corriger de nombreuses fautes de lecture de son prédécesseur. Une autre caractéristique du dictionnaire de Tombouret-Lomatch est qu'il donne des renvois systématiques aux principaux dictionnaires. De plus, ils indiquent éventuellement des travaux lexicographiques quand ils les jugent utiles. Les lecteurs qui s'intéressent à l'étymologie et à la famille du mot, ainsi qu'à un aperçu un peu plus approfondi de ses emplois, pourront de cette façon être guidés par ces références. En même temps, Tobler et Lomach n'hésitent pas à signaler des erreurs de leurs prédécesseurs. Comme exemple de leur esprit critique, on peut consulter leurs deux articles Perchet. Le premier article est consacré au diminutif de substantif perche, au sens de perche, c'est-à-dire du poisson d'eau douce carnassie, tandis que le deuxième article concerne le diminutif d'un autre substantif perche, au sens de gaule de bois, barre, bâton, etc. Le premier groupe de perche et de perchette vient du latin perca, qui désigne le même poisson, et le deuxième groupe provient de l'étymon latin pertica, qui signifie gaule. Or, dans leur premier article perchette, Tobler et Lomach signalent d'abord que Godefroy a cité un court passage du roman de la Rose et qu'il a compris le mot perchette comme nom de poisson. Ensuite, ils nous apprennent que cette occurrence de perchette dans le roman de la Rose est reprise dans l'article Perca de F.E.V. comme une première attestation datée du XIIIe siècle. L'interprétation de Tobler et Lomach est différente, car ils pensent que dans l'œuvre de Guillaume de Loris, le mot perchette est un diminutif de l'autre mot perche, au sens de gaule de bois, et il désigne une petite barre servant à suspendre les vêtements. Par conséquent, cette occurrence est rangée dans leur deuxième article perchette, qui a comme étymon le latin pertica. Le contexte un peu plus large qu'on lit dans leur article permet au lecteur de vérifier que l'interprétation de Godefroy et de Wartburg était en effet mauvaise et que ce sont Tobler et Lomach qui ont eu raison. En outre, on pourrait aussi signaler comme qualité de leur dictionnaire une lemmatisation systématique des vedettes ou un intérêt particulier sur la construction syntaxique des mots. Mais toutes ces caractéristiques remarquables du dictionnaire de Tobler et Lomach ne doivent pas nous faire oublier qu'il n'est pas toujours impeccable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Tobler et Lomach s'efforcent de répertorier tous les mots qu'on trouve dans les textes d'ancien français. Leur nomenclature constitue donc une image assez fidèle de la langue de l'époque. Or, si l'on examine leurs articles, on s'aperçoit tout de suite qu'ils ne sont pas toujours bien remplis. Il leur arrive de se contenter de renvoyer un Godefroy sans plus de précision. Par exemple, l'édition de Attis et Trophilias et ou l'âtre périlleux ne sont pas cités dans Tobler et Lomach. Et les textes ainsi négligés sont assez nombreux. Cette sélection un peu curieuse a pour conséquence de suggérer au lecteur que ces sources sans citation ne sont pas dignes de les intéresser. Ce qui est plus grave, c'est que Tobler et Lomach ont de cette façon enregistré plusieurs mots fantômes qu'ils auraient pu sans doute éviter d'accueillir s'ils avaient examiné un peu plus attentivement les citations de Godefroy. Vous me direz sans doute que je ne cesse de dire du mal des vénérables lexicographes. Mais tout ce que je vous raconte est destiné à vous montrer qu'il faut prendre au sérieux nos prédécesseurs, mais que sans esprit critique, on risque toujours de tomber dans des pièges. Et le résultat de l'examen critique n'est pas toujours visible dans mon dictionnaire, parce que la dimension restreinte ne m'a pas permis de tout dire. Et vous avez compris, je l'espère, que ce n'est pas en recopiant des dictionnaires existants que j'ai composé mon ouvrage. En ce qui concerne d'autres défauts qu'on trouve dans le dictionnaire de Tobler et Lomach, j'en parlerai la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention.
Cher ami, votre acribie et votre sévérité apparaissent dans votre dernière phrase, puisque vous annoncez des reproches ultérieurs. Mais vraiment, nous sommes séduits et c'est incroyable d'être aussi passionnant sur des points aussi précis et supposant une attention aussi extrême à une science aussi méticuleuse. Et plus nous vous écoutons, moins nous nous étonnons que le dictionnaire que vous avez publié soit à ce point admirable, mais nous nous allons nous élever vers lui par gradation jusqu'à la fin de ces quatre séances. En attendant, j'attendais la fin de la première, au cas où vous auriez démérité, ce que je ne craignais pas. Mais en attendant, je vous donne dès aujourd'hui, et sans attendre, je vous remets la médaille du Collège de France qui récompense les orateurs les plus valeureux invités sur des chaires d'État.
Merci beaucoup. C'est la passion.